France Inter.
France Inter, le 18-20. Le nouveau désordre mondial. Une journée pour comprendre.
Vous n'avez pas les cartes là. Sans nous, vous n'avez pas les cartes. Vous jouez avec les vies de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale.
Notre prospérité et notre sécurité sont devenues plus incertaines, et il faut bien le dire, nous rentrons dans une nouvelle ère.
C'est un moment décisif pour l'Europe. L'Europe est confrontée à un danger clair et présent, et doit donc être capable de se protéger, de se défendre.
Je veux le dire très clairement, à la lumière des menaces contre la liberté et la paix sur notre continent, il nous faut appliquer la même chose à notre défense, le quoi qu'il en coûte.
Vous aurez sans doute reconnu Donald Trump, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen et Friedrich Merz, le futur chancelier allemand. L'époque est aux grandes phrases, à l'accélération de l'histoire qui nous laisse sidérés et inquiets. Il y a des décennies où rien ne se passe et des semaines où des décennies se produisent. Nous y sommes avec le bruit de la guerre en toile de fond. Alors on va clore cette journée spéciale sur le nouveau désordre mondial sur France Inter avec vous. Un téléphone sonne qui durera exceptionnellement jusqu'à 21h. Tant les questions sont nombreuses, géopolitiques, militaires, économiques, philosophiques même. Les trois quarts des Français se disent inquiets. Ils considèrent que la guerre en Ukraine est un risque pour nous aussi. Donald Trump tourne le dos à l'Europe, humilie Zelensky dans le bureau ovale, reprend la rhétorique russe et se lance dans une croisade au nom de la liberté d'expression. Ce sont nos fondations qui vacillent, celles de nos démocraties et de cette paix dans laquelle nous vivons depuis 80 ans. On entend les mots de réarmement, de troisième guerre mondiale parfois. Alors on va aller tous ensemble au-delà des mots. En première heure, toutes vos questions sur l'état de la menace, des menaces. Et en deuxième heure, on essaiera de voir vers quel nouvel ordre mondial nous allons. Soyez les bienvenus sur France Inter.
France Inter, le téléphone sonne XXL, Christelle Rebière.
Et on commence avec Sophie, bonsoir.
Bonsoir, vous m'entendez bien ?
Oui, je vous entends très bien. Je sais que vous appelez de loin de l'île de la Réunion, mais ça passe très bien. Allez-y, nous vous écoutons.
Oh, ok. Alors, l'idée, c'est tout à fait surprenant, c'est la réaction de M. Trump vis-à-vis de Poutine, c'est-à-dire à quel point il semble vassalisé par M. Poutine, qui semble être le maître des horloges et mettre en avant ses liens très forts avec la Chine et le Brésil, par exemple, ou l'Inde. Et je pense qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu. Poutine va faire traîner les choses. Mais c'est surtout cette vassalisation d'un homme extrêmement puissant, M. Trump, vis-à-vis de Poutine. Quels sont les deals que l'on ne connaît pas, même si on a quelques idées. Voilà. Et l'idée, c'était aussi d'avoir une grande pensée pour M. Navalny et une grande pensée pour tous les Russes, le peuple russe qui ne peut pas s'exprimer et qui est musulman.
Alors, voilà. Vous ouvrez le débat. Merci Sophie. Pour en parler avec vous, Rim Momtaz, bonsoir.
Bonsoir.
Géopolitologue, rédactrice en chef du média stratégique Europe de la Fondation Carnegie. Philippe Corbet, journaliste, auteur du podcast Zeitgeist sur les histoires qui font parler l'Amérique en direct de New York. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Le général Yakovlev, ancien vice-chef d'état-major du SHAPE, le commandement de l'OTAN. Bienvenue à vous.
Bonsoir.
Et Thomas Legrand, que les auditeurs connaissent bien, éditorialiste et producteur de l'émission Enquête de politique chaque dimanche sur France Inter. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Christelle.
Alors on va peut-être commencer par vous, Rim Momtaz. Est-ce que vraiment Donald Trump, comme le dit Sophie, est vassalisé par Vladimir Poutine?
Non, je pense que c'est pas le bon mot à utiliser. Donald Trump n'est pas vassalisé. On sait que depuis très longtemps, depuis en fait la moitié des années 80, Trump idéologiquement est proche de la lecture de Poutine du monde, c'est-à-dire du monde qui la fin de la guerre froide et ce qui suit après et cette victoire de l'Occident. Lui, il est d'accord avec Poutine que l'OTAN s'est trop approché de la Russie. Et puis depuis, on arrive à aujourd'hui, en fait, il faut comprendre deux choses. Un, Donald Trump a, contrairement à tous les présidents américains depuis la Seconde Guerre mondiale, ne voit pas le monde à travers le prisme de l'Alliance Atlantique. Il voit le monde à travers le prisme de sphères d'influence. Il reconnaît que la Russie, en tant que grande puissance, même si son économie est fait 10% du même pas. Beaucoup moins que 10% du PIB mondial et qu'elle a une armée qui est dans un état assez pitoyable, n'est plus vraiment une puissance. Il reconnaît qu'elle doit avoir une sphère d'influence. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, il est très concentré aujourd'hui. Sa priorité n'est pas la sécurité européenne, n'est pas l'intégrité territoriale ukrainienne. C'est d'essayer de découpler ce couple russe-chinois. Et donc, pour lui, la priorité, c'est de faire un deal avec Poutine pour montrer qu'il peut construire une relation avec lui.
Philippe Corbet.
Oui, pour rebondir sur ce que disait Raymond Taz à l'instant, ici on parle d'une opération de Nixon à l'envers, puisque au début des années 70, Richard Nixon avait fait le choix de se rapprocher du régime chinois, ce qui à l'époque était tout à fait stupéfiant, et pour écarter d'une certaine manière Pékin de Moscou. Et donc aujourd'hui, ceux qui ici essaient de rationaliser ce qu'essaie de faire Donald Trump, ils disent, eh bien, il est en train de faire la même chose que ce qu'a fait Nixon avec succès dans les années 70. Je pense que c'est comme le dit votre auditrice, c'est un mystère. On ne connaît pas exactement la nature ou le degré de la fascination de Donald Trump pour la Russie.
Mais si elle pose cette question-là, pardon Philippe, notre auditrice, c'est peut-être parce que nous ici, on a l'impression que Donald Trump se range du côté de la Russie.
Alors, non, mais ce que je veux dire, c'est que mettons-nous un instant du côté du point de vue de Donald Trump. Donald Trump est un homme d'affaires et impressionné. Fasciné d'une certaine manière par la puissance russe, par la puissance territoriale, par la puissance de ses réserves, notamment minières. Et donc, il considère que il est absurde d'un point de vue purement commercial, d'un point de vue économique, que les États-Unis ne puissent pas commercer comme ils pourraient le faire avec la Russie, ne puissent pas non plus profiter des richesses du sol russe. Et donc, dans son esprit, en rétablissant un rapport plus normal, plus classique, celui qui existait pendant une vingtaine d'années avec la Russie, ça sera aussi des opportunités pour des entreprises américaines, etc. Donc, de son point de vue, il cherche à rétablir une relation plus apaisée avec la Russie pour bénéficier, dont pourraient bénéficier des entreprises américaines.
Mmh. Thomas Legrand.
Oui, Raymond Taz et Philippe Corbet viennent de dire l'essentiel, c'est-à-dire avec des visions d'empire, des logiques d'empire. Quelles sont les logiques et les stratégies des trois grands empires, en fait, constitués, la grande Russie, la Chine et les États-Unis. Moi, je voudrais apporter un élément plus idéologique. Donald Trump, en tout cas la sphère trumpiste et peut-être plus encore J.D. Vance, sont idéologiquement finalement dans la lignée, dans la vision du monde de Vladimir Poutine. Vous savez, on a parlé pendant longtemps, c'était Samuel Huntington qui parlait depuis 1996 de la guerre des civilisations, du choc des civilisations, et on parlait voilà de l'Occident plutôt chrétien contre le Sud, contre l'islam, et en réalité, ça c'est la vision trumpo-poutinienne. Il y a une autre vision qui se dégage aujourd'hui, c'est les démocraties libérales contre les autoritaires. Or, les démocraties libérales, il n'y a plus que nous, il n'y a plus que les Européens, et les autoritaires, ce sont finalement tous les autres, et on a l'impression que c'est ça, cette alliance poutino-trumpienne, il y a cet aspect aussi de changement d'axe dans la guerre des civilisations.
J'aimerais bien avoir aussi une réaction de votre part au propos de Vladimir Poutine sur un accord de paix, parce que là on est dans l'actualité, de toute façon l'histoire s'écrit en ce moment chaque jour sous nos yeux. C'est un oui-mais de Vladimir Poutine. Cet accord doit mener à une paix durable, dit-il, avec un règlement du conflit qui s'attaque aux causes profondes. Il se demande comment contrôler le cessez-le-feu. Les Russes ne veulent pas entendre parler de soldats européens. Ils menacent même d'un conflit direct. Donald Trump trouve sa réponse très prometteuse, mais pas complète. Qu'est-ce qui va se passer, à votre avis, dans les prochaines heures, Rim Momtaz ?
Alors, premièrement, j'aimerais juste dire que peut-être tout le monde autour de cette table s'attendait à une réponse de la part de Poutine dans ces termes. En fait, mettez-vous à la place de Poutine. Pourquoi est-ce qu'il ne demanderait pas la Lune ? Puisque de toute façon, il a bien compris que Trump veut faire ce deal à n'importe quel prix et aux dépens des Européens. Et en fait, c'est ça vraiment le changement d'air pour les Européens aujourd'hui. Ils vont payer les pots cassés. Et c'est intéressant parce que oui, Trump évidemment va dire c'est une bonne réponse, on va continuer de discuter. Il faut pas oublier que Trump a promis de mettre un terme à cette guerre en 100 jours. C'est très important pour lui, pour son ego, de pouvoir se tourner vers son électorat et dire, vous voyez, moi, je ne suis pas Biden le sénile, c'est comme ça qu'il l'appelle.
Oui.
Moi, je suis arrivé, j'ai mis un terme à cette guerre en 100 jours. Moi, je suis un homme qui tient sa parole et vous voyez, je suis fort, Poutine me respecte et la vérité, c'est que ce cessez-le-feu, évidemment, ne va pas tenir parce que Poutine nous le dit explicitement. Il dit, lui, il n'y a pas de cessez-le-feu tant qu'il n'y a pas une démilitarisation de l'Ukraine, de toute façon. Et que donc, il va continuer d'attaquer l'Ukraine tant qu'elle n'est pas démilitarisée. Et même s'il le fait, après avoir donné cet accord à Trump, Trump, à la fin, ne va pas se sentir impliqué ou responsable de revenir à la charge. Il va se tourner vers les Européens et leur dire, maintenant, débrouillez-vous, c'est votre problème. Moi, j'ai déjà réglé la situation, j'ai fait un cessez-le-feu.
Est-ce que c'est possible un cessez-le-feu en démilitarisant l'Ukraine, général Yakovlev ?
Je pense que le plan de Poutine, c'est ce que Hitler a fait avec Munich. Donc Munich en 1938, on a commencé par désarmer la Tchécoslovaquie avec le territoire des Sudètes, qui était la frontière, qui était armée. Donc nous avons accepté la quasi-démilitarisation de la Tchécoslovaquie en échange d'une promesse de Hitler de préserver le reste de la Tchécoslovaquie. Et puis une fois que, bon, quelques mois après, hop, on a plié et c'est devenu le protectorat de Bohême-Moravie. Donc je pense que le plan de Poutine, c'est grâce à Trump, qui est vraiment l'idiot utile au sens léninien du terme dans toute sa splendeur, grâce à Trump obtenir en gros un désarmement, une démobilisation de l'Ukraine en échange d'une promesse de respecter au-delà du trait, hein, le trait quelque part sur la carte. Et puis une fois que je pense après le 9 mai quand Trump aura présidé ou assisté aux cérémonies du 9 mai à Moscou, et ben il emballera le reste.
Qui est la cérémonie la plus importante de l'année.
Voilà. Après ça, il emballera reste de l'Ukraine.
C'est leur 8 mai.
C'est le plan de Poutine qui nécessite la collaboration pleine et entière d'un idiot utile qui n'a rien compris au film.
Philippe Corbet, un idiot utile vraiment, Donald Trump? Il peut aussi se retourner. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il se retourne contre Poutine si ça ne va pas tout à fait comme il le souhaite?
Mais je pense qu'on va avoir toute la gamme, toutes les notes des stratégies de négociation de Donald Trump, qui va à certains moments froncer les sourcils, hausser le ton, menacer de reprendre le conflit. Dieu sait ce qu'il pourra répliquer, soit par tweet, soit directement à Poutine. Donc il va jouer avec ça comme il le fait sur toutes les négociations. On le voit aussi en ce moment sur les relations commerciales. Il passe dans la même journée de différents tons. Donc on va voir tout ça. En ce moment, enfin ce soir à Moscou, le président Poutine reçoit Witkoff, qui est l'émissaire de Donald Trump, qui n'est pas un diplomate, qui est une vieille connaissance de Donald Trump, qui est un financier de Wall Street avec qui il joue au golf, qui n'est pas un diplomate, mais qui a une approche de dealmaker, comme l'aime Donald Trump, de chercher des deals, trouver des négociations. Et c'est à lui de convaincre le président Poutine, avec toute son expérience au pouvoir, toute son expérience autrefois du KGB, aidé de Lavrov, qui est quand même un incroyable diplomate, le chef de la diplomatie russe, et c'est Witkoff qui doit être en train de convaincre la Russie. Enfin, c'est presque irréel. Et en même temps, je pense qu'il va falloir lire dans les prochains mois ce qui se passe à la Maison Blanche, aussi à travers le prisme d'un débat au sein de l'équipe Trump, entre d'un côté Trump, J.D. Vance, peut-être Witkoff et d'autres qui vont avoir peut-être des moments déroutants, et en même temps la diplomatie américaine menée par le Département d'État et notamment menée par Marco Rubio, le secrétaire d'État en charge des affaires étrangères, qui lui est un républicain plus classique, qui a avalé beaucoup de couleuvres depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, mais qui ces derniers jours a réussi d'une certaine manière à danser le tango avec Zelensky pour ramener d'une certaine manière Zelensky dans le jeu sans fâcher Trump. Enfin, il y a quelque chose qui se joue là entre d'un côté la diplomatie diplomatie américaine menée par Rubio et d'autre part les instincts du président Trump. Donc il va falloir regarder ça avec attention.
Il va y avoir un bras de fer aussi entre les deux hommes. On repart au standard avec Eric. Bonsoir.
Oui, bonsoir. C'est intéressant parce que ça fait quelques minutes que j'entends, donc j'écoute votre émission et j'entends parler d'idiot utile, une opinion que je partage, mais quand même élu deux fois par les États-Unis avec tous les pouvoirs que peuvent avoir un président des États-Unis. Enfin bon. Moi, ma question est la suivante. Ne pensez-vous pas que les 800 milliards investis dans l'armement favorisent le sentiment de peur? Parce que moi, en tant qu'attaché à l'idée d'Europe, je me dis que quand même la première réaction par rapport à deux personnages qui sont pas de mon univers, à savoir Poutine et Trump, la première réaction c'est de faire comme eux et de s'aligner complètement les 800 milliards. C'est ce que demande Trump à l'Europe de faire pour s'aligner sur ce que lui dépense militairement. Et philosophiquement, je trouve que l'Europe est en train de se vautrer, quoi. Ce qui n'est pas non plus surprenant, mais en train de se vautrer.
Donc est-ce que cette somme colossale favorise le sentiment de peur, Général Iakovlev ?
Alors déjà, cette somme considérable, il faudra que l'industrie l'absorbe, c'est un autre sujet. Mais ce n'est pas pour faire plaisir à Trump et pour répondre à ces 2%, 3%, 5%, c'est parce que nous en avons besoin. Nous avons désinvesti dans notre défense pendant 30 ans, donc on a un léger rattrapage à faire et ça s'appelle 800 milliards. Donc c'est dans l'intérêt de l'Europe et ça le sera d'autant plus dans notre intérêt qu'on en profitera pour reconstituer notre base industrielle et technologique de défense qu'on achètera européen.
Mais ça va prendre du temps, Général Iakovlev. Et ce temps-là, est-ce qu'on l'a ?
On n'a pas le choix. Ce temps-là, ce sont les Ukrainiens qui l'ont gagné pour nous et qui continuent à le gagner pour nous. Et puis même s'il faut mille ans, chaque minute compte.
Et que peut faire l'OTAN ?
Ça dépend de Trump.
Ah, mais c'est très intéressant comme réponse. Ça veut dire que l'OTAN sans Trump n'est rien ?
Alors, techniquement, l'OTAN sans l'Amérique pourrait continuer à vivre. Politiquement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de membres de l'Alliance qui resteraient dans l'Alliance si l'Amérique s'en va.
Ma comparaison, sans les États-Unis alors, dans l'OTAN ?
L'OTAN est un système solaire avec des planètes et un soleil. L'Union européenne est un système planétaire sans soleil. Pour que l'Union européenne cause des grandes marées, il faut un alignement des planètes. Et les planètes sont à peu près égales entre elles, hein, en gros, entre les grands cinq. Donc, c'est un avantage intrinsèque de l'OTAN sur l'Union européenne. C'est le leadership américain, de fait. Donc, vous retirez le leadership américain ou vous le mettez en doute, ce qu'a réussi à faire Trump en 2 minutes 30, en gros, l'OTAN a un problème existentiel.
Et est-ce que l'Europe peut se défendre seule, sans les Américains ? Parce qu'on dépend énormément de l'armement américain, quand même.
Oui, mais d'abord, se défendre face à qui ? Face à une armée qui n'est pas aussi équipée que la nôtre, en fait. Hein. Nous avons deux fois plus de chars que l'Amérique. Nous avons deux fois plus d'artillerie que l'Amérique. Nous avons deux fois plus d'avions que l'Amérique. Donc, c'est faux de dire que l'Europe est désarmée. Elle est fractionnée. Elle est fragmentée, pardon. C'est pas la même chose que de dire elle est faible. Et notre mesure, c'est pas l'armée américaine, c'est pas eux qu'on veut casser la gueule, c'est les Russes. Donc, et on sait opérer ensemble. Et les Américains nous vendent des trucs du style vous n'avez pas assez de ravitaillement par air. Bah ouais, si on combat en Europe, on n'aura pas besoin de ravitaillement par air parce qu'on partira de nos bases pour aller frapper à 1000 km. Vous n'avez pas assez de transport aérien stratégique. Bah c'est pas grave puisqu'on prend le train. Vous voyez ? Donc nous manquons d'artillerie solaire, nous manquons de certaines choses. C'est vrai que les Américains...
De moyens d'observation depuis l'espace, est-ce qu'on a...
Oui, mais on n'est pas dépourvus. On n'a pas la densité des Américains, on n'a pas le taux de rafraîchissement, mais on en a assez pour trouver nos propres objectifs dans une large mesure. Donc on n'est pas à l'échelle des Américains, mais c'est pas parce que vous mettez 10 fois plus d'argent que vous avez 10 fois plus de renseignements, et surtout que ce renseignement est 10 fois plus pertinent.
Il y a beaucoup une question de coordination, et ça peut se régler finalement assez vite, c'est de la volonté politique.
On sait le faire sans les Américains, on sait déjà le faire. Après, c'est un choix politique. Pour l'instant, l'Europe, le problème est politique, il n'est pas militaire, en fait.
Rim Momtaz.
Je rajouterais une chose à tout ce que le général a dit, avec lequel je suis totalement d'accord. En fait, aujourd'hui, on demande aux Européens pas de remplacer l'armée américaine en Europe, on demande aux Européens de dissuader la Russie, qui menace l'Europe et menace la sécurité des Européens. Ça ne demande pas les mêmes capacités militaires. On ne demande pas aux Européens d'aller se battre frontalement avec une puissance nucléaire russe. On demande juste de rétablir une dissuasion. Et ça, c'est complètement possible dans les capacités qui existent. Avec, évidemment, il faut monter en gamme et monter en masse du côté européen, d'où la nécessité de ces investissements. Je veux juste revenir à une chose que Eric a dit, qui est très important. Il dit que philosophiquement, l'Europe se perd en investissant et en voulant investir autant dans la défense. Mais au contraire, pour que ce que l'Europe est philosophiquement puisse continuer d'exister, il faut pouvoir se défendre. Parce qu'aujourd'hui, explicitement, la Russie de Poutine, pas depuis cette année ou depuis 2022, mais depuis 2007, Poutine dit explicitement que son ennemi, c'est l'Union européenne. Mmh. Et que lui, il veut détruire l'Union européenne. Et que donc, il est contre la façon de vivre, l'éthos, la philosophie de l'Union européenne et des Européens. C'est ce qu'il faut qu'on défende aujourd'hui.
Et là, il faut peut-être, pour répondre à notre auditeur, expliciter ou définir ce que nous sommes et ce qu'il faut défendre. Qu'est-ce que c'est que l'Europe ? Qu'est-ce que c'est que l'Europe ? C'est évidemment une construction artificielle et humaine qui a été faite juste après la guerre pour faire la paix. Généralement, les constructions politiques se font par la guerre. L'unité de l'Italie, c'est faite par la guerre. L'unité de l'Allemagne, c'est faite par la guerre. L'unité de l'Europe, c'est faite par la paix. C'est une spécificité assez extraordinaire. Et c'est un ensemble de démocraties où... Donc, ce qu'on appelle la démocratie libérale, quand on dit le mot libéral, on pense souvent à l'économie, mais c'est un terme politique qui nous vient de Tocqueville, qui nous vient de français d'ailleurs, et qui dit que la démocratie, c'est pas simplement plébiscitaire, c'est pas simplement au moment des élections, c'est tout un tas d'institutions, institutionnelles ou non, la presse, les juges, la justice,
l'état de droit,
c'est tout cet ensemble de lois qui limite et qui borne le pouvoir de ceux qui ont le pouvoir, c'est on fait attention aux sociétés civiles, on fait attention à la sécurité sociale, ça vient de l'après-guerre aussi, et d'ailleurs ça vient de la charte de l'Atlantique en 1941 qui a réuni plutôt les Américains et les Anglais et qui ont fait un texte très politique en disant pour qu'il n'y ait plus le nazisme et qu'il n'y ait plus les dictatures, il faut que les économies soient redistributives. Et on avait ça en commun avec l'Amérique d'ailleurs. Et l'Amérique l'a abandonné. Nous, on l'a, on le garde, on veut le développer. C'est un modèle qui est maintenant assez unique. Je trouve que ça vaut le coup d'investir 800 milliards. Moi, il me rassure, ces 800 milliards.
Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu sur France Inter. Nous vous écoutons.
Merci beaucoup. Oui, je me posais une question que beaucoup de monde doit se poser. Depuis l'arrivée de Poutine en 2000 environ, à la tête de la Russie, j'allais dire l'Union soviétique, il a dévasté la Tchétchénie, il a envahi la Géorgie, l'Occident n'est jamais intervenu, ensuite il s'est attaqué à l'Ukraine, l'Occident n'est pas intervenu, ensuite... il s'en est pris aux opposants de Bachar el-Assad et l'Occident n'est toujours pas intervenu. On lui a accordé les Jeux Olympiques, on lui a accordé la Coupe du Monde où on voyait des présidents sur les tables, tout ça. Et je me demande pourquoi l'Occident n'est pas intervenu plus tôt. Est-ce que c'était par simple peur de sa bombe atomique ou... Bon, parce que moi, j'avais un ami militaire qui me disait que les Russes, quand même, avaient quand même pas mal de mal à entretenir leur parc nucléaire.
Quoi. Oui. Alors, bon, si je résume, pourquoi l'Europe s'est-elle réveillée si tard, Rim Momtaz ?
Je suis vraiment très reconnaissante de la manière dont cette question a été posée, parce que malheureusement, on entend de plus en plus des gens en Europe qui disent « Mais en fait, c'est l'Occident, c'est les Européens qui sont allés chercher les Russes, parce qu'ils ont élargi les frontières de l'OTAN. »
Oui, ils leur ont fait peur.
Ils leur ont fait peur,
comme si on avait été, oui.
Alors ça, c'est le point de vue de Vladimir Poutine. En fait.
Oui, mais il est aussi repris par, on va parler de gens aussi européens.
Ce matin, Jean-Luc Mélenchon.
Oui, oui, absolument.
Savoir, voilà. Mais pas seulement à gauche, aussi à droite.
Non, hein, mais il faut l'entendre, hein, ce discours.
Et, mais en fait, non, pourquoi il faut l'entendre? Il est factuellement faux. Donc il faut expliquer que c'est faux. Ce qui s'est passé avec l'OTAN, c'est que on a des pays qui étaient sous le joug de l'occupation meurtrière soviétique, qui, quand ils ont été libérés, ont demandé de rejoindre l'Occident parce que ils trouvaient que c'était mieux. Et puis, comme l'a bien rappelé l'auditeur, on a passé des décennies à laisser la Russie faire parce qu'on ne voulait pas rentrer dans une confrontation, et parce qu'on se disait, en fait, en l'apaisant, on va la ramener plus proche de nous. Il y a eu d'ailleurs des initiatives au niveau de l'OTAN avec un accord d'association d'une certaine manière. On a tenté de les rapprocher par le libre-échange, et tout ça nous a donné la plus grande guerre conventionnelle en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 2022, avec l'invasion que seul Poutine a voulu en 2022 de l'Ukraine, et que seul Poutine aurait pu arrêter à n'importe quel moment du jour au lendemain depuis février 2022.
Une question d'Anaïs qu'elle nous a envoyée sur le site de France Inter. On a bien compris que la guerre redevient une possibilité que l'on pourrait subir très directement. Ne devrions-nous pas nous inspirer des politiques israéliennes, suisses ou finlandaises qui font le pari des citoyens soldats, général Yakovlev?
Je suis assez pour. Je suis très fier d'être le dernier général français.
Au contraire, m'eût étonné.
Je suis le dernier général français à avoir commencé sa carrière comme appelé du contingent. Je le répète, hein, j'étais 76-12. J'en suis très fier.
Oui.
Et donc, oui. Alors, on a des problèmes techniques et humains en France et financiers, au sens la ligne du parti en France aujourd'hui, c'est que si on repassait à un modèle de conscription, il nous faut des dizaines de milliards d'euros. Ça coûte très cher. Par exemple, en immobilier. Si vous voulez loger 150
000 personnes... On a vendu beaucoup de casernes.
Donc, c'est pas si simple. Bon. Mais il y a d'excellents modèles. Et j'étais à l'Institut des hautes études de défense nationale, dont un rapport l'année dernière de la majeure que je pilote, sur le service militaire, parlait d'un service militaire sélectif, comme font les Suédois. Les Suédois, leur armée était en train de mourir par manque d'effectifs. En 2016, ils ont relancé la conscription. C'est une conscription obligatoire, mais sélective. Alors que moi, j'avais connu la conscription obligatoire universelle. Elle était équitable parce qu'elle était universelle. Tout le monde y allait, en gros. Là, les Suédois, ils ont réussi à inverser la proposition. C'est les armées qui choisissent 10% de la classe d'âge pour faire leur service militaire.
Et ils sont obligés, les 10%?
Ils sont obligés. Et en fait, ils font des lettres de motivation, ils remplissent des trucs, ils sont reçus par un board, et c'est les armées qui choisissent les gens qui vont venir. Alors, on pourrait crier, c'est une loterie épouvantable, c'est un massacre, c'est dégueulasse, etc. La vérité des prix, c'est que les gars qui sont sélectionnés en sont très fiers.
Ça fait une ligne sur le CV, ils sont payés.
C'est une ligne sur le CV, et leurs salaires sont 10% plus élevés que ceux qui n'ont pas fait leur service militaire.
Ah oui,
c'est considéré comme une plus-value réelle. Ça serait des pistes à explorer. Ce rapport a été passé au Sénat, il y a vraiment des pistes à explorer. Associer plus de population à la défense, fondamentalement, à titre personnel, je le souhaite.
Alors, puisqu'on parle de ces expériences personnelles, moi, j'ai été troufion aussi. J'ai fait mon service militaire avant que ça ferme, parce que je suis vieux.
Bah oui.
J'ai fait 12 mois dans l'artillerie et je crois que je ne sais pas tirer un coup de feu. Et franchement,
ça sent
pas
un journaliste.
J'ai pas appris. Non. J'étais troufion, quoi. J'étais pas étudiant journaliste à Ballard. Non. J'étais troufion dans la Marne. Et mes petits camarades et moi, à la fin, je suis pas sûr qu'on était des soldats prêts, aguerris à faire la guerre. Donc j'ai quelques doutes sur la conscription, le retour de la conscription généralisée. Mais bon.
Au niveau politique, il se passe quelque chose, peut-être autour de ça quand même, parce qu'en ce moment, si on regarde des sondages d'un petit peu près, les Français sont plutôt pour le retour de la conscription.
Oui, parce qu'il y a une sorte de nostalgie, on disait, c'est vrai, les un an de service militaire, moi j'ai gardé des camarades, on rencontre des gens qui ne sont pas de sa région, qui ne sont pas de son milieu, c'est un petit peu mythique aussi, vous savez, le service militaire, en fait, les officiers étaient tous issus d'une même classe sociale, et les troufions, on recréait, le service militaire, ça recréait beaucoup.
Vous voulez dire que c'est juste de la nostalgie?
C'est un peu de la nostalgie. Tout était mieux avant parce qu'on était jeunes, pas parce que c'était avant.
Mmh. Bonsoir Patrice.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Merci. On présente des fois Trump comme un peu bébête ou innocent dans ses relations avec la Russie. Mais j'ai entendu plusieurs émissions très intéressantes sur France Inter qui disaient qu'en fait, plusieurs fois il a été en difficulté financière. Et finalement, c'est la Russie qui l'a aidé, et qui l'a aidé bien financièrement. Donc sans être un agent dormant, est-ce qu'il n'est pas redevable finalement à la Russie? Et est-ce que ça ne donne pas une lecture un peu différente de ce qui est en train de se passer?
Philippe, merci. Philippe Corbet vous répond depuis New York.
Moi, il y a des liens financiers importants, anciens, entre Trump, la Trump Organization et la Russie, des projets immobiliers. Et donc, ces liens-là sont documentés, connus. Il faut se souvenir quand même que dans la foulée de l'élection de Donald Trump en 2016, en fait, la Russie a interféré dans l'élection. C'est-à-dire qu'il y avait les services de renseignement américains, donc à la fin de la présidence Obama, voyaient que la Russie essayait de favoriser Trump, ou en tout cas défavoriser Hillary Clinton. Et donc, il y a eu ensuite, après l'élection de Donald Trump, une grande enquête, une investigation qui a duré 2 ans avec un procureur spécial qui est un ancien du FBI avec des moyens considérables pour enquêter, démêler tous les liens entre Trump et la Russie. Et la question, c'était est-ce que d'une certaine manière, la Russie a faussé le résultat de l'élection ?
Oui.
On a plein d'éléments à l'issue de ces 2 ans d'investigation, mais rien qui permette d'établir de façon absolue que Trump serait un agent russe ou un pantin de Poutine. Je crois que les choses sont plus simples que ça. Il a une fascination pour la Russie en général, mais surtout une fascination pour le pouvoir fort de Vladimir Poutine. Le côté masculiniste, si vous voulez, le côté il est là, il est au pouvoir, il impose le respect, et il y a un côté il regarde le côté brut, d'une certaine manière, à tous les sens du terme, de Vladimir Poutine fascine Donald Trump. Moi, je me souviens notamment du sommet entre Trump et Poutine à Helsinki en 2018, qui, ne serait-ce que dans le langage corporel, était fascinant. Donald Trump est plus grand et plus massif que Vladimir Poutine, et néanmoins, on avait l'impression que c'était un petit garçon à côté de Vladimir Poutine. Il avait même, d'ailleurs, il avait même contesté publiquement lors de la conférence de presse, il avait désavoué ses propres services de renseignement en donnant raison à Poutine, ce qui était tout à fait humiliant. Et il y a quelque chose de l'ordre de la fascination pour le plus gros caïd.
Mmh. Mais on a quand même l'impression qu'il se détourne de l'Europe, Donald Trump.
Oui, mais alors, sans le défendre, je pense qu'il faut regarder ça en prenant un peu de recul. Ça n'est pas, c'est pas la semaine dernière ou il y a 15 jours qu'il a exprimé un agacement vis-à-vis de l'Union européenne. Il y a 10 ans déjà, avant d'être élu, il mettait en doute le principe de l'article 5 de l'OTAN. Donc, c'est pas tout à fait nouveau. Et même si on prend un peu plus de recul, quand vous écoutez Barack Obama lorsqu'il était président, il disait déjà aux Européens, réarmez-vous, investissez davantage dans votre défense. Il disait de la France et du Royaume-Uni qu'ils étaient, je cite, des passagers clandestins parce qu'ils n'étaient pas des alliés fiables lorsqu'il fallait engager des conflits ou plutôt ensuite assurer le soutien aux États-Unis. Il parlait notamment de la Libye. Et donc, ce doute-là des États-Unis vis-à-vis de l'Europe, il n'est pas nouveau, il est même assez ancien. Et il faut aussi garder en tête ici le contexte de beaucoup d'Américains, je parle d'électeurs américains, qui sont fatigués, et pas fatigués depuis 15 jours, mais fatigués depuis des décennies, d'un rôle qu'ils jugent exagéré des États-Unis dans le monde, en tout cas d'une sorte d'attente d'autres pays et une fatigue des conflits armés. C'est-à-dire que le conflit en Afghanistan, le conflit en Irak ont laissé une trace très très amère pour beaucoup d'Américains. Et donc cette idée que répète Donald Trump, il l'a encore dit ce matin, que lui ne déclenche pas de conflit et que lui essaye d'y mettre fin, c'est quelque chose qui résonne dans une partie de l'Amérique et pas seulement la base trumpiste.
Rima Mtaz.
Sur ça, je pense que vraiment les Européens portent une grande responsabilité. Parce que pendant des décennies, ils ont choisi de suivre une politique de l'autruche. Ils ont voulu ne pas voir qu'aux États-Unis, il y avait de plus en plus des démocrates comme des républicains qui leur disaient « on reste vos alliés, mais en fait les termes de la relation transatlantique ne peuvent plus continuer comme ils sont. On ne peut plus continuer à vous fournir toute votre sécurité et votre défense, et vous, ça vous permet d'investir dans votre système social, dans vos vacances payées. » Dans votre niveau de vie qui est meilleur que le nôtre, parce que tout ça est réel. Et ça, c'est partagé par la population américaine, qu'elle soit de droite ou de gauche. Et comme l'a bien rappelé Philippe Corbet, Obama, que tous les Européens trouvent très charmant et génial, il a utilisé des mots qui étaient très désobligeants envers les Européens. Les Européens n'ont pas voulu écouter. Mmh. Trump est venu, il a été brutal pendant son premier mandat. Les Européens ont choisi de se dire non, mais c'est une anomalie de l'histoire, il ne reviendra pas. Et ils ne se sont pas mis sérieusement à réfléchir à comment redéfinir cette alliance pour la préserver. Et aujourd'hui, on est où on en est.
Pour résumer tout ça, je ne sais pas qui disait récemment, mais je trouvais que c'était une bonne formule. Finalement, les Européens, c'est 500 millions d'habitants qui demandent à 340 millions d'habitants, les Américains qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, de payer pour les protéger de 140 millions d'habitants qui sont pourtant leurs voisins, les Russes. C'est une situation que la population américaine ne peut pas comprendre et c'est normal. Et dans ce contexte-là, il faut dire quand même que la France peut-être était le pays qui alertait ses voisins, bon, pour des raisons parce qu'on a une sorte d'autonomie stratégique et puis on a aussi notre industrie militaire, mais la France était le pays qui portait peut-être un peu plus que nos voisins cette voie. Les Allemands étaient bien contents de ne pas avoir trop à investir et de toujours évoquer, invoquer leur passé militaire, leur passé tragique pour dire « Oh là là, nous, l'armée, ça ne nous concerne pas ». Ça leur permettait de financer beaucoup d'autres choses.
Mais je dois reconnaître une incohérence du côté américain. Tout ce que vous avez dit est vrai. C'est que... Alors, ils voulaient que les Européens fassent
aussi, certaine façon.
Oui. Ils voulaient que les Européens en fassent plus, mais tant qu'ils continuaient à acheter des masses infernales de.
Il a acheté des F5, des F15.
D'armement.
Business is business.
D'armement américain. Et en fait, c'est pas possible de devenir plus autonome si on n'arrive pas à avoir notre propre industrie de défense.
Comment allons-nous assurer notre sécurité, général Yakovlev? Ah bah c'est la
il
question qui
minutes.
Tue. C'est,
oui,
c'est ça. Il vous reste 2 minutes.
C'est facile. Hein. c'est facile. Il suffit déjà se mettre d'accord entre nous et croire en nous. Comme je disais au début, nous ne sommes pas désarmés. Nous ne sommes pas faibles. C'est pas vrai ça. Les Américains nous ont entretenu l'Europe dans un discours lénifiant et un truc d'adolescent. Bon, maintenant on se réveille. On découvre qu'on est dans un monde d'adultes et qu'il va falloir se comporter en adulte. Les Français, ça fait 40 ans qu'on le dit, on prêchait dans le désert. Voilà. Mais il est légitime, comme ça a été dit, que les Américains considèrent qu'il y a un moment où on se prend en main nous-mêmes. Le virage américain, je me mets à leur place, il est légitime, je le comprends très bien. Ce que je regrette, c'est qu'on se sépare en s'engueulant. J'aurais préféré qu'on se sépare comme après un bon dîner. Vous voyez ce que je veux dire? On se quitte, bons amis. Il n'y avait aucune raison de s'engueuler comme ça se passe aujourd'hui avec Trump.
Est-ce qu'on peut encore se rabibocher avec Trump?
Mais oui, moi je...
On a l'impression que tout est possible.
Je pense qu'il est tellement versatile.
La confiance est quand même...
Alors, je pense que c'est... Il faut faire attention. Il ne faut pas dire que l'alliance transatlantique, elle n'est pas morte. Il faut la réinventer pour la sauver. Et Trump, ce qu'il veut voir, c'est qu'il a face à lui des gens qui sont intelligents, qui sont forts. D'ailleurs, il répond bien au rapport de force et qui écoutent ce qu'il est en train de dire. Après, je suis totalement d'accord, il y a un très gros déficit de confiance et la confiance, c'est un peu comme le dentifrice. Quand ça sort du tube, c'est difficile à remettre dedans, quoi.
Bon, merci, merci. On est à la mi-temps de cet téléphone sonne XXL ce soir sur le nouveau désordre mondial. Merci à vous tous, merci à ceux qui nous écoutent. N'oubliez pas de nous appeler au standard, hein. On est ensemble jusqu'à 21h. On fait une pause avant les infos de 20h.